Je vous invite à vous asseoir pour écouter les textes des Écritures. Nous commençons par lire dans le livre d'Ésaïe une partie du chapitre 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que sa justice s'impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur dans sa main, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, on ne dira plus de ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir est en elle. Et on t'appellera aussi l'épousée, car le Seigneur prends plaisir en toi et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi tes fils t'épouseront. Et comme la mariée fait la gaieté du marié, ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu. Je vous invite à chanter le cantique numéro 143, les trois strophes. Nous prions. Seigneur, qui par ton esprit et présence vive, renouvelante, lumière par laquelle nous voyons la lumière, nous te demandons d'ouvrir large notre cœur, d'assouplir notre intelligence, de visiter ce qui en nous nous échappe et que nous ne contrôlons pas, pour que nous puissions te laisser régner en souverain dans ce moment où tu veux parler à chacun, où tu veux donner un nouvel élan à notre vie. Nous écoutons la deuxième lecture. Elle est extraite du livre de l'Apocalypse au chapitre 2. En fait, il s'agit d'une petite lettre. Cette lettre est destinée à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue, coupant des deux côtés. Je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit. Mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Et pourtant, tu as continué à croire en moi, même à ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Alors, change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi tout de suite pour les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai à chacun un caillou blanc, et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Vous voyez, avec cette lettre qui est pleine de mentions historiques, nous sommes obligés de passer par ce passage du contexte historique. Il s'agit d'une des sept lettres qui ouvre le livre de la Révélation, de l'Apocalypse, de la révélation de la gloire et de la victoire définitive du Christ. Et dans cette lettre, dans ces sept lettres, eh bien, on voit que le Christ en gloire connaît chacune de ces églises dans le détail de son histoire. Il connaît ses combats, il connaît leur persévérance ainsi que leur fléchissement. Et il les reprend, il les avertit, mais surtout, il sait reconnaître leur courage et il donne des mots d'encouragement et des promesses. Il récompense en quelque sorte leur ténacité. Et il les récompense par des objets hautement symboliques et assez intrigants. Par exemple, on a un vêtement blanc, une colonne, une couronne, l'étoile du matin. Enfin, chaque église reçoit quelque chose. Et évidemment, ce sont des mots qui sont encodés et qui nous permettent, nous, de comprendre une signification plus profonde et aussi comprendre que ce qui se passe en ce moment, là, à la fin du premier siècle, est une réalité terrible, un contexte marqué par des pressions de plus en plus fortes qui vont jusqu'à une forme de persécution, puisqu'on voit que Antipas est mort, un des membres de la communauté. Et pourquoi cette pression et pourquoi cette persécution ? C'est parce qu'on est en plein règne de Domitien. C'est un empereur qui est de plus en plus raide et de plus en plus autoritaire et qui a un goût très prononcé pour le culte impérial. On devait, beaucoup plus que ses prédécesseurs, on devait l'appeler Seigneur Dieu ou Empereur Très Saint ou encore Jupiter. Et il s'en prenait essentiellement aux sénateurs qui n'étaient pas ravis de ce genre de détournement du pouvoir, mais il s'en prenait aussi aux philosophes, aux astrologues, aux juifs et aux chrétiens. Alors pourquoi aux juifs et aux chrétiens ? Parce que leur monothéisme intransigeant était vu comme une forme d'athéisme sacrilège par rapport d'abord aux divinités classiques, traditionnelles, mais aussi toutes ces divinités importées, parce que vous savez que la période hellénistique avait déjà commencé à digérer, intégrer toutes sortes de dieux exotiques. Et puis aussi, c'était une forme d'athéisme sacrilège, provocateur à l'égard évidemment du culte impérial, qui, avec Domitien, cherche vraiment à s'imposer. Alors Pergame, une des sept églises, se situe à Pergame, le lieu, le siège de Satan. C'est un peu fort quand même. Alors pourquoi le siège de Satan ? Eh bien parce que Pergame est le haut lieu du culte impérial, justement. D'ailleurs, c'est là où la première fois César a institué le culte impérial. Et c'est une des plus belles cités hellénistiques qui pouvait rivaliser avec Alexandrie. Elle avait quand même une bibliothèque de 200 000 ouvrages. Un très grand hôtel que certains ont peut-être vu au musée de Pergame à Berlin, qui est une splendeur. Et puis des temples à foison sur l'Acropole. Il y avait un temple pour Dionysos, pour Zeus, pour Athéna, pour Héra, pour Déméter. Et puis pas très loin, il y avait tout un centre réservé au dieu Asclépios Sauter, c'est-à-dire un dieu guérisseur qui faisait des ravages, qui avait beaucoup de succès. Alors c'était aussi une cité extrêmement riche, qui faisait commerce de draps fins, de parchemins, parchemin vient de Pergame justement, et des parfums rares. Et cette richesse est attestée par une architecture monumentale qu'on reconstitue, où on voit des escaliers monumentaux, des belvédères, des terrasses, des portiques de toute beauté, qui est vraiment l'exemple de la beauté architecturale hellénistique. Et bien là-dedans, la petite communauté chrétienne doit tenir ferme et surtout ne pas glisser dans des accommodements de confort. Par exemple, manger des viandes réservées au sacrifice, ou tolérer notamment en son sein des Nicolaïtes. Alors, ou l'enseignement, ne serait-ce que l'enseignement des Nicolaïtes. Alors, qui sont-ils ? Ce sont des gens très ouverts. Et je dirais, avec l'ouverture de l'esprit grec éclairé, qui relativise tout, mais qui souvent se mettait sous plusieurs allégeances. Comme le faisait la religion hellénistique, qui digérait toutes les nouveautés et qui goûtait tout ce qui était nouveau, de façon avec beaucoup de libéralité, beaucoup de tolérance. Ça non, ça n'est pas possible pour la communauté chrétienne comme pour la communauté juive. Il n'y a qu'un seul Dieu pour les chrétiens. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom et on ne peut pas servir de maître. Donc il faut tenir ferme, et ça a des conséquences sociales et personnelles quand même de grande ampleur, puisqu'on peut être tué et on peut surtout perdre sa position dans la société. Donc c'est une épreuve et une endurance qui coûte assez cher. Et cette endurance est vécue comme une provocation à l'égard de l'empereur. Alors, il faut pour cela des promesses encourageantes. Et ces promesses encourageantes, dans ce temps d'épreuve, c'est d'abord de dire que l'épreuve ne durera pas, qu'il y aura un changement, qu'il y aura une rupture, il y aura une clôture, en fait, à ce temps terrible. Et ça passe par, justement, ce cadeau, enfin, cette récompense intrigante, le petit caillou, la manne cachée, on ne sait pas trop ce que c'est, et ce nom nouveau que personne ne connaît, dont on ne peut même pas ici énoncer et prononcer le nom. Alors cette manne cachée dans la littérature rabbinique de l'époque, on pensait que Jérémie avait enfui dans le tabernacle un petit peu de manne reçue pour le moment où le Messie viendrait. Donc c'est vraiment la nourriture de Dieu qui est en réserve, qui est là pour nourrir aussi l'espérance. Le caillou blanc, bon, c'est toutes sortes de choses dans l'Antiquité, c'est hellénistique d'ailleurs, c'était soit un petit caillou qu'on recevait pour pouvoir venir à une invitation royale ou à un grand banquet, soit c'était un caillou qui permettait d'acquitter quelqu'un lors d'un jugement, ou c'était un talisman qui éloignait le mauvais sort. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, on va pas s'arrêter sur le petit caillou blanc, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui est gravé dessus. Le nom secret. Donc, cette récompense, enfin, cette promesse, dit que la situation actuelle, la situation présente, n'est pas un enfermement, et n'est pas une fatalité, et qu'une réalité déjà entamée s'ouvre et ouvre une perspective dans ce temps réduit et oppressant de l'épreuve. Alors, elle est réservée à qui, cette récompense? Aux vainqueurs. Alors, est-ce que les vainqueurs sont des gens particulièrement combatifs? Sans doute pas. Dans la pensée johannique, dans la pensée de l'Apocalypse, les vainqueurs, c'est tout simplement ceux qui se saisissent avec foi de la victoire du ressuscité. C'est tout. Et à partir du moment où ils pensent que le ressuscité a tenu face à la mort et qu'il a défait la mort par cette espérance dans la vie au-delà de la mort, la vie de Dieu en lui, et bien à partir de ce moment-là, ils peuvent aussi, eux, tenir contre toutes les tentations et tous les fléchissements et tous les découragements. Et peut-être aussi la tentation de cette religion flamboyante et très ouverte, très sympathique, hein, qui accueille toutes sortes de pratiques religieuses, mais qui finalement est une forme de domination avilissante. Alors cet objet mystérieux est là aussi pour dire qu'il y a une réalité difficilement nommable. Alors on prend des symboles, mais ça parle au cœur. Et je vous proposerai tout à l'heure justement d'écouter et faire comme si on entendait la voix de Dieu, la voix du Christ ressuscité parler à chacun de nous, puisque, après tout, ce nom, personne ne le connaît que celui qui le reçoit. Cette réalité, c'est celle qui est capable de lever en nous une force créatrice et aussi capable de faire lever la puissance imprévisible de l'espérance que nous portons et que nous recevons du Christ ressuscité. Mais avant, nous allons peut-être nous attarder un petit peu sur la force du nom. Pourquoi dire un nom nouveau? Comme je l'ai lu tout à l'heure avec le livre d'Ésaïe, il y a une puissance dans le nom, c'est dans la pensée hébraïque. Le nom est la chose, le nom est la personne qu'il désigne, il n'y a pas de séparation. Et c'est pour cette raison que nommer quelqu'un, et même nommer une réalité, octroie une grande puissance, la puissance de nomination. C'est un acte d'autorité qui d'ailleurs vient du fait que le monde a été créé par le dire de Dieu. En hébreu, le dabar, la parole, c'est simultanément la parole et la chose et l'acte que désigne la parole. La nomination a aussi une portée fondatrice. C'est pour cette raison qu'au moment de la création, dans Genèse 2, Le premier acte de responsabilité et peut-être de prééminence, prérogative que Dieu donne à l'homme, c'est de nommer l'espèce animale et végétale. C'est une prérogative qui lui donne en fait un pouvoir sur la création. Dans la Bible, on a d'ailleurs 50 épisodes de nomination de nouveau-nés. Et dans ces 50 épisodes de nomination, il n'y a pas moins de 40 qui sont accompagnés d'explications étymologiques. Alors évidemment, pour nous, on sait que c'est la marque d'interprétation midrashique, mais dire le nom, comme dire le nom, c'est dire l'être, eh bien, lorsque l'on nomme, on encode aussi ce nom d'un programme, hein, d'une signification. On voit souvent, au moment où on nomme un nouveau-né, l'expression « c'est pourquoi on l'appellera ». Il y a toujours une raison à la nomination. Par exemple, vous avez un des premiers nommés, Caïn. Ève appelle son fils Caïn, car elle dit « j'ai acquis un fils avec Dieu ». Bon, évidemment, la formulation déjà mérite beaucoup de développement et d'explication. Et par exemple, une autre nomination, Ismaël, ça veut dire « Dieu a entendu ». Donc le nom est révélateur d'un destin, du destin qui attend l'individu. Et d'ailleurs, dans la littérature et l'exégèse rabbinique, nommer, c'est un processus de dévoilement de l'être. C'est quand on nomme quelqu'un, en même temps, on révèle son identité profonde, l'identité profonde de la personne, mais aussi ce qu'est le lieu. Quand on nomme un lieu, on dit ce qu'est exactement le sens profond et caché du lieu, ou alors la signification du moment que l'on désigne. Donc le nom est très important, mais n'allez pas penser que, on peut aussi, on pourrait penser, que le nom du coup est un programme et qu'il nous enferme. En plus, le nom, on le reçoit, on le subit, on ne l'a pas choisi. Il nous a été donné et il transmet peut-être une volonté de nos parents ou de ceux qui nous ont désignés. Il nous assigne presque à résidence. Il nous donne une place. C'est l'exemple, par exemple, d'Abel, qui était nommé celui qui était quasiment inconsistant, aussi inconsistant qu'une buée, c'est-à-dire il avait la fragilité de l'homme dans sa finitude. Et on comprend aussi ce qui lui est arrivé par la suite. Donc, on peut comprendre aussi que certaines personnes veuillent divorcer de leur nom. Elles veulent sortir de l'aspect programmatique ou de l'aspect quasi magique de leur nom. D'ailleurs, Freud invite, dans certains de ses textes, à sortir de la magie du nom pour pouvoir posséder son propre destin et reprendre son propre destin. Alors, en fait, en hébreu, le nom, ça se dit Shem, et bon, en hébreu, ça renvoie de toute façon à Sham. Et Sham, ça veut dire aussi là-bas. Ça veut dire le projet, ça veut dire le trajet, ça c'est intéressant, la destination, et ça a même un sens dérivé qui signifie la dimension céleste de l'existence. Donc on voit bien que le nom est plus qu'un enfermement, une sorte de minéralisation de l'identité. Le nom est un projet, le nom est aussi un chemin. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que c'est Dieu qui le donne. Quand l'homme se fait un nom, comme c'est le cas à un moment de Babel, ce n'est pas bon signe, parce que lui-même s'enferme et s'enferme dans ses propres programmes. Mais c'est Dieu qui nomme, parce que c'est le pouvoir vraiment, le grand pouvoir de vie, c'est Dieu qui le donne par sa parole. Alors, on se rend compte que très souvent, Dieu prend la liberté de changer le nom et que changer le nom a une grande portée aussi, parce que justement, on sort d'un programme. Alors déjà, ça a une grande portée parce qu'on l'utilisait dans l'Antiquité proche-orientale pour signifier qu'on prenait possession et qu'on s'appropriait le destin de la personne. Je prends un exemple. À Canaan, les Hébreux, au moment de la conquête de Canaan, qu'est-ce qu'ils font ? Tout de suite, ils changent le nom des lieux, ils hébraïsent le nom des lieux pour signifier, marquer, mettre un petit drapeau sur la carte de leur conquête. Et puis on voit par exemple Joseph Potiphar, quand il est pris dans le service de Potiphar, eh bien Joseph prend un nom égyptien et Potiphar l'appelle Safnat Panea. C'est une façon de dire qu'il appartient désormais à Potiphar. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Daniel et de ses autres princes juifs au moment de la déportation à Babylone. Nabuchodonosor l'ordonne à chacun un nom chaldéen, un Shadrach, Meshach, Abednego, etc. Ils changent leur nom. C'est une façon de dire qu'ils désormais ils sont sous la possession de Nabuchodonosor. Et vous voyez aussi dans le jeu entre Jésus et les démons jouent quand même à essayer de posséder et de tenir Jésus en respect ou d'avoir un pouvoir sur lui parce que c'est eux qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, avant même que n'importe qui sache qu'il est le Fils de Dieu. C'est une volonté aussi d'appropriation, même si Jésus réussit à la tenir en respect. Donc vous voyez que dire le nom et changer le nom est d'une très haute portée. Mais ça dit aussi, de façon positive, le changement de nom dit aussi un projet de vie. C'est souvent d'ailleurs, on le voit, le prélude à l'inversion du destin. Le destin va changer. Et là, le changement du nom intervient au moment où une étape importante arrive dans la vie de quelqu'un. Regardez, Abraham devient Abraham, Sarai devient Sarah, au moment où même avant d'être fécond, et leur changement de nom est déjà la réalisation d'une promesse de fécondité. Ça permet de faire la peau neuve, de changer d'identité, et on l'a vu pendant la guerre, ceux qui subissaient des persécutions à cause de leur nom changeaient de nom pour pouvoir survivre et rentrer dans un programme de vie et non pas de destruction. Le changement de nom révèle aussi une vocation qui appelle, qui provoque quelque chose de neuf chez quelqu'un. Jacob, après le passage de Yabok, s'appelle Israël parce qu'il a osé lutter avec Dieu. Simon s'appelle Pierre, désormais, dans la bouche de Jésus. Quant à Saul de Tarse, il prend définitivement le nom de Paul. Donc, on voit bien que le nom, dans son identité, enfin, se rapporte à une identité intime, elle touche à la dignité, elle touche au pouvoir, elle touche à la marque et au rayonnement de chacun, et que quand on touche à ce nom, soit on cherche à l'altérer, soit on cherche aussi à se moquer, à affecter la personne, à la blesser dans sa dignité, soit on cherche à lui fermer des portes. On voit que parfois avec un nom, au moment de recherche d'emploi, il est mieux d'avoir un CV anonyme. Soit parfois un nom nous ouvre des portes, au contraire. Et le nom permet aussi, dans le changement ou dans ce qu'il est, permet aussi d'ouvrir à la vie, d'interpeller et de permettre un changement chez quelqu'un. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je vous propose quelque chose, une sorte d'adresse, on va dire, un tutoiement, qui est tout à fait dans la ligne de la lettre que le Christ souverain et ressuscité adresse à l'église de Pergame. Et c'est comme si cette adresse vous était destinée. Parce qu'après tout, nous sommes, comme les membres de l'église de Pergame, dans nos combats multiples, peu importe, chacun vit ses propres combats, ses propres difficultés, mais aussi sa propre permanence dans la foi et sa propre fidélité. Eh bien, chacun peut être destinataire de cette lettre et aussi être encouragé à être vainqueur de ce qui pourrait le décourager, le détourner, le faire bifurquer de cette magnifique espérance qu'est la victoire du Christ sur les puissances de mort. Alors, je m'adresse à vous, et par un tutoiement, comme si c'était l'Esprit de Dieu qui nous disait à chacun de nous et à moi-même, ce nom nouveau que je te donne, c'est aussi le nom d'une bifurcation, le nom d'une déviation dans ta trajectoire. Non pas que je cherche à métamorphoser ton identité. Ce n'est pas toi qui dois te changer. Ce n'est pas toi qui te donne un nom nouveau. Ce n'est pas toi qui va moduler et qui va trafiquer ton identité. Tu ne peux pas grand-chose là-dessus. Non, ce que je te propose, ce n'est pas non plus une annulation de ce que tu es profondément. Ce n'est pas un reniement et un effacement de ton identité. Ce que je te propose, c'est une relation nouvelle. Car dire ton nom, c'est aussi avoir un effet et un pouvoir sur toi. Te reconnaître dans la rue et te héler, c'est aussi te faire changer de route. C'est aussi prendre une partie de ton temps et de ta liberté, de ta disponibilité. Alors voilà, moi je t'appelle d'un nom nouveau parce que je veux une relation nouvelle et renouvelée avec toi. Une relation qui fait que tu ne réponds pas aux mêmes appels, tu ne réponds plus aux mêmes sollicitations, aux sollicitations usées, fatiguées. Tu n'es plus avec moi dans une relation d'évidence où tu peux anticiper ce que je vais te demander, ce que je vais vouloir, ce que je vais te dire, ou ce que tu dois faire, ce que tu dois vouloir, comment tu vas réagir. Une relation d'évidence qui va changer, où tu t'étonneras de ce que tu es, où tu t'étonneras de toi-même, et tu te donneras aussi de ce que je suis. Car ce que je veux pour toi, c'est un renouvellement. Je veux une relation d'amour ravivée, une relation ressuscitée avec toi. Car quelque chose en toi est à nouveau sollicité comme au premier jour, une attention toute fraîche, un saisissement, un frémissement de la qualité de ceux que l'on a lors de nos premières amours, une sorte d'alerte nouvelle à ma présence, une sensibilité renouvelée à l'amour que je te réserve. Et pour cela, je nomme en toi ce que tu ne connais pas encore. Je nomme en toi ce que pourtant déjà tu reconnais. Et à cela, tu ne peux que me répondre avec vivacité, sans calcul, sans peur, mais aussi sans habitude. Ta vérité, dans cette relation renouvelée où tu as un nouveau nom, ta vérité se mobilise sur le champ, car elle a été vue, aimée et reconnue. Tu as entendu cette voix que tu reconnais sans pourtant l'avoir connue. Je suis nouveau pour toi, je suis un nouveau Seigneur, car ton cœur dans cette nouvelle relation est nommé à nouveau frais. Et tout en toi change déjà. Tu réponds à mes sollicitations d'un pas nouveau et d'un pas sûr. C'est une nouvelle relation. Mais c'est aussi pour toi le nom qui est gravé et que toi seul reconnais, un nom nouveau que tu m'accordes. Car dans toute relation, les noms changent. Et ce nom que tu m'accordes et qui peut ne pas changer phonétiquement, c'est un nom nouveau parce que tu me vois dans une dignité, une puissance et une tendresse que tu ne connaissais pas jusqu'alors. Et tu me vois aussi dans la victoire que tu avais délaissée, habituée aux défaites, habituée à tes fatigues, à tes fléchissements. Désormais, c'est un nom au-dessus de tout nom, un nom nouveau, celui du ressuscité qui n'est pas banalisé, qui n'est pas un nom générique, qui n'est pas le nom programmé de ce que tu as toujours su de moi, mais c'est un nom secret qui t'alerte et qui te dit que je viens en nouveauté et que je te rencontre, toi, mon fils et ma fille, en nouveauté. Amen.
Thank you.